Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Des clés pour vivre. Bonjour Père Jean-Marcel Rossini. Merci de revenir pour cette série spéciale que nous enregistrons ici à Lourdes, où vous exercez ce ministère de chapelain dans ce sanctuaire marial. Vous êtes arrivé en 2017 et vous êtes donc le gardien de cette fraternité des Capucins et gardien aujourd'hui aussi de cette figure du vénérable Père Marie-Antoine de Lavaur, avec ce livre que vous avez travaillé, et je salue très fort Jacqueline Bailey, paru aux éditions du Pêche, un pionnier de la nouvelle évangélisation, un vrai visionnaire, un vrai prophète, et au fond, un saint, le Père Marie-Antoine. Le dossier avance,
hein, mais nous ne voulons avec pas prudence anticiper le jugement infaillible de l'Église.
Hein. Alors, on parle de dossier en vue de la canonisation, oui. Donc on va parler de sainteté. Oui. Au fond, qu'est-ce que la sainteté chez le Père Marie-Antoine de Lavaur, Père Jean-Marcel?
Vous savez, quand on parle de sainteté, quand on rencontre un des pèlerins à Lourdes et on leur dit, vous savez que notre vocation, c'est d'être saint, il y en a certains qui s'épouvantent un petit peu. Hein, être saint, la sainteté, elle nous semble bien souvent lointaine. Et pourtant, elle est pour nous. Nous sommes appelés à être saints. Je dirais même, en vertu de notre baptême, nous sommes saints. Cette sainteté, elle nous est offerte. Et elle nous est offerte dans ce monde, dont la laideur ne nous échappe pas. Et elle nous est offerte dans une société qui ne semble pas vouloir stopper son ensauvagement. Mais c'est ici, c'est maintenant, c'est dans ce contexte troublé, comme vous aimez le répéter, que nous sommes invités au bonheur des béatitudes.
Et que vous aimez aussi tous les chapelains ici qui célèbrent des messes dans les prédications, rappellent et parlent de ces
bien
temps
souvent,
troublés.
Bien souvent, troublés que nous vivons.
Mais ces temps troublés n'empêchent pas d'entrer dans un chemin de sainteté.
Oui, de correspondre.
Et dans l'ordinaire de la vie, c'est ce que vous voulez rappeler.
Exactement, parce que c'est exactement ça qui nous est promis par le Seigneur et qui nous est demandé. Parce que nous sommes appelés vraiment à témoigner de cette sainteté par toute notre vie.
Alors, quels sont les moyens pour devenir un saint?
Les moyens pour devenir un saint, c'est tout simplement, si je puis dire, tout simplement, essayer de vivre l'Évangile, d'incarner dans notre vie les valeurs de l'Évangile. Et j'aime beaucoup une phrase de saint François de Sales qui disait que entre la vie des saints et l'Évangile écrit, il y a la même différence qu'entre une musique écrite et une musique exécutée. Pour, je crois, le chemin le plus sûr pour devenir saint, c'est regarder ceux qui, les premiers, ont su répondre. Saint Maximilien Kolb, en rappelant une phrase de Saint Augustin, disait que lui aussi pouvait devenir saint. Si tel et tel autre a pu devenir saint, moi aussi je pourrais devenir saint. Et il disait, je veux être un saint plus grand que Saint François. Pensez un peu. Mais c'est extraordinaire de voir les saints et de désirer être saint. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la vie du Père Marie-Antoine. Vous savez, quand il était enfant, sa maman lui lisait « La vie des saints ». La vie des saints. Et c'est en écoutant la vie des saints qu'il a eu le désir de devenir saint. Et toute sa vie a été marquée par la présence des saints. Quand, en 1856, il a été envoyé à Toulouse pour fonder le couvent de son ordre, ou refonder le couvent de son ordre, la première chose qu'il a faite, c'est aller à la basilique de Saint-Sernin, où sont conservées les reliques de très nombreux saints, pour se confier à l'intercession des saints. Pourquoi ? Parce que les saints, ce sont ceux qui ont su répondre et correspondre aux attentes du Seigneur. Et donc, ce sont ceux qui l'auraient certainement guidé sur la bonne voie pour faire la volonté de Dieu, tout simplement.
Donc, on entend aussi une clé. On peut s'arrêter, si on s'arrête dans la ville rose de Toulouse, arrêtez-vous à la basilique Saint-Cernin, où il y a effectivement une crypte avec énormément de reliquaires, de reliques de saints.
Donc, pas pour vénérer je ne sais quelle relique, avec une vision un peu macabre des choses, mais parce que ces reliques disent concrètement qu'à travers ces corps, ce sont des corps qui ont voulu faire la volonté de Dieu, qui se sont donnés à Dieu et qui nous portent à Dieu. Voilà pourquoi on va vénérer ces reliques des saints.
Au fond, c'est suivre Jésus jusqu'à la croix, Jésus crucifié.
À travers ceux qui l'ont suivi.
Mais ressuscité.
Et ressuscité,
et voilà. Et il l'a suivi. Alors, on fait vite, le temps presse, Père Jean-Marcel. Alors, dans la vie et ce chemin de sainteté, des saints ont été importants et ont compté pour le Père Marie-Antoine. Saint-François, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Germaine de Pibrac et la petite Bernadette, et bien sûr, son saint patron, Antoine de Padoue. Oui. Alors, quelques mots, très vite, en 5 minutes, de ces saints qui ont compté dans son parcours.
5 minutes, ça va être très, très, très...
pour chacun.
Voilà. Alors, on va commencer. Saint-Antoine de Padoue, c'est le saint qui a marqué la vie du Père Marie-Antoine, bien avant de devenir un franciscain d'ailleurs. Tout à fait par hasard, on lui a offert cette statue d'un saint qui désormais était complètement inconnu en France. Et quand il est devenu capucin, et c'est une statue qu'il a toujours gardée avec lui, entre parenthèses. Et quand il est devenu capucin, au jour de sa prise d'habit, alors qu'on changeait le nom, on lui a attribué le nom d'Antoine, pour Antoine de Padoue. C'était le 13 juin. Et à partir de là, Antoine de Padoue a pris toute sa place dans la vie du père Marie-Antoine. Et nous savons que, par exemple, c'est à travers le Père Marie-Antoine que l'œuvre du pain de Saint-Antoine en faveur des pauvres a été réintroduite en France, que la dévotion à Saint-Antoine de Padoue a été réintroduite en France. Voilà, un saint qui a eu une influence remarquable sur la vie de Marie-Antoine. On pourrait bien sûr citer Saint-François. Il ne parle pas beaucoup de Saint-François en lui-même, mais il manifeste, par exemple, au terme de toutes ses lettres, cette présence de son père séraphique. Et on sent bien que la présence de François est très active dans la vie du Père Marie-Antoine, très forte. Par exemple, il a écrit un petit ouvrage dont le titre était une expression très chère au cœur de François. C'est une expression que François répétait souvent quand il cheminait dans les bois en pleurant. L'amour n'est pas aimé. Et c'est constatation de l'amour qui a certainement aussi animé le cœur du Père Marie-Antoine et qui l'a poussé à être un évangélisateur.
Un grand évangélisateur. Deux mots sur Sainte Marie-Madeleine.
Vous voyez, Marie-Madeleine, mais c'est l'exemple même de cette figure de conversion qui tenait au cœur du Père Marie-Antoine. C'est son obéissance filiale, comme il est écrit dans ce livre, fervente à Marie, qui lui a fait découvrir, aimer et fait aimer Sainte Marie-Madeleine. Et c'est la première pénitente, celle qui a eu la première rencontre avec Jésus ressuscité, malgré ce qu'elle était. C'est ça qui a touché certainement le Père Marie-Antoine. Et c'est pour cela même qu'il a voulu qu'après la grotte des apparitions, il y ait la grotte de la pénitence. Parce que
ici à Lourdes, la grotte
de Sainte Marie-Madeleine.
Ces grottes ne sont pas connues parfois du grand public. Elles commencent.
Elles commencent à être connues. Elles sont hélas fermées parce qu'il y a des chutes de pierres. Mais le Père Marie-Antoine a voulu que la présence de Marie-Madeleine, non loin de la grotte des apparitions, soit un appel très fort à la conversion, à la pénitence, à l'amour, hein, tout simplement.
C'est plein d'espérance, visage de Marie-Madeleine. Ça dit cette pécheresse qui, par contrition, finalement, va suivre le bien-aimé et ne jamais revenir en arrière.
Exactement.
Hein. C'est très beau. Bernadette et puis la petite Sainte Germaine de Pibrac.
Je crois que tout simplement, on pourrait lier Bernadette et Germaine de Pibrac. C'est l'humilité de ces deux saintes qui ont touché Marie-Antoine. On sait combien le Père Marie-Antoine s'est dépensé pour faire connaître Germaine de Pibrac et s'est dépensé d'abord pour la béatification et pour la canonisation. Hein. Il avait même fait ériger un monument à Toulouse qui, hélas, a été détruit. Et puis, bon, pour la petite Bernadette, on l'a déjà évoqué, mais on sait bien, le Père Marie-Antoine avait un amour immense pour Bernadette. Il avait eu la grâce de la rencontrer au cours entre la 17e et la 18e apparition. Il a pu l'interroger longuement. Bernadette lui a refait les gestes de la Vierge Marie.
Et le sourire de Marie.
Et le sourire de Marie. Ouais, ouais. Et le sourire de Marie. Ouais. Elle a communié à sa messe. Et pour lui, Bernadette, c'était vraiment sa douce amie, quelque part.
Alors, quand on viendra ici en pèlerinage, et je pense à ceux et celles qui vous écoutent depuis le début de la semaine, eh bien, venir à Lourdes, n'oubliez pas de prier aussi cette figure du vénérable Père Marie-Antoine de Lavaure, et pourquoi pas rencontrer aussi les quelques capucins, cinq capucins ici en mission dans ce sanctuaire de Marie. Je vous propose, Père Jean-Marie Rossini, et c'est la fin de cet entretien, c'est court, je sais, de vous retrouver demain et de demain, nous entrons avec vous pour quelques minutes dans le confessionnal, hein, si vous le voulez bien, l'amour au confessionnal. Et c'est le rendez-vous que je vous propose demain à la même heure.
À demain.